membres du FMI et de l'Union européenne accordent sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé, c'est marqué ben, go sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes hein, comme ras-le-bol la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on est bien vendredi, il est 19h05 et du coup c'est l'heure des Canu Info, du vendredi tout simplement. De quoi qu'on va parler ce soir?
Et bah dans un premier temps, on va ouvrir mon micro sans doute, où est-ce qu'on m'entend?
Moi je t'entends en tout cas.
Si tu m'entends c'est formidable, je ne m'entends pas, c'est incroyable, c'est peut-être la surdité qui s'annonce. En attendant, on va d'abord vous parler de Complot Féministe, qui est un collectif lyonnais qui va nous parler de la situation en Argentine.
Et puis on glissera sur le national et là on vous parlera des amendes forfaitaires et des keufs en roue libre dans les quartiers.
Absolument. Et puis toujours au national, on vous parlera de l'austérité. Parce que vous n'avez pas pu passer à côté. Il va y avoir une poignée de milliards d'euros d'austérité qui arrive. Et tout ça se fait aux dépens de l'écologie et des services publics.
Et puis dans les services publics, il y a l'hébergement. Ça fait partie des obligations de l'État. Et devinez quoi, il y en a de moins en moins. Et entre autres, dans le Pas-de-Calais, il y a une politique raciste de l'association qui gère le 115.
Et oui, et puis on vous parlera d'une nouvelle bonne nouvelle, et ça c'est dans la rubrique écologie. Et on va reprendre notamment une petite sortie d'un député en marche qui a dit « Vous voulez quoi? Qu'on n'ait plus d'agriculture ?» Voilà, ça va parler de pesticides et comment les pesticides eh bien, nous condamnent au désert.
Et puis les pesticides condamnent aussi les animaux, du coup on n'oubliera pas leur cas et on en parlera un petit peu avant de conclure par l'agenda et évidemment le traditionnel ACAB.
Traditionnel ACAB qui, on vous invite évidemment, c'est toujours cette rubrique participative, l'exceptionnelle rubrique participative du Canu Info du vendredi. Appelez-nous au 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15 si jamais vous savez ce que veut dire ACAB.
Bonne émission.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Nous sommes un collectif latino-américain, écoféministe, intersectionnel, décolonial et anticapitaliste. Nous avons comme objectif de mettre en lumière les réalités actuelles de l'Amérique latine en tant qu'immigrants en France, en utilisant l'art comme moyen et en créant des espaces de contention afin de générer un sentiment d'appartenance.
L'Argentine traverse une crise politique, économique et sociale très complexe. En 2018, le pays a contracté les plus grands prêts de l'histoire du FMI sous le gouvernement de Macri, ce qui nous soumet à une politique sociale non seulement dépendante des grands capitaux des États-Unis, mais aussi à une brutale austérité pour les classes populaires. Nous venons de gouvernements qui ont répondu aux intérêts privés en transférant les revenus des classes populaires à la bourgeoisie. Aggravé par la pandémie et la sécheresse la plus sévère de 100 dernières années, les revenus en dollars ont considérablement diminué, nous positionnant parmi les pays d'Amérique latine ayant les salaires les plus bas. L'inflation croissante détruit les salaires des travailleurs chaque jour, réduisant la qualité de vie des gens. La pauvreté croissante et l'incapacité du marché à générer un emploi authentiques et de qualité sont également des problèmes.
En plus du désastre économique, il y a une crise de représentation du système politique. Les politiciens ne représentent plus les besoins du peuple. C'est simplement un exemple de la crise démocratique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Dans ce contexte, naît Milei, une figure disruptive construite par les médias hégémoniques. Comme un messie, il vient représenter la lutte contre la classe politique, ce qu'il appelle la caste. Un prophète sous la forme d'un troll des réseaux sociaux qui prêche la liberté du marché. Pour lui, les chefs de grandes entreprises sont des héros et considèrent le mouvement féministe et écologiste comme ses principaux ennemis. Il nie le changement climatique et déteste l'État démocratique. C'est ainsi qu'il arrive au pouvoir avec un peuple complètement divisé. Il est important de souligner sa capacité à utiliser les réseaux sociaux, atteignant en effet de manière massive des secteurs isolés et appauvris. Il leur offrait de fausses solutions d'amélioration, par exemple des promesses de dollarisation et d'élimination de notre monnaie nationale, y compris la suppression de la banque centrale.
À deux mois de l'entrée en fonction de Milei, on peut voir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement qui vient à détruire la classe politique, mais qu'il subsiste grâce à l'alliance avec des anciens fonctionnaires du gouvernement de Mauricio Macri, 2015-2019, et des grands groupes économiques locaux et internationaux. Son plan économique ne représente aucune nouveauté, mais plutôt une continuité avec les politiques néolibérales classiques. Réduction de l'État comme conséquence des coupes monétaires dans l'investissement public, suppression des impôts pour les plus riches, réforme du travail pour mettre fin aux droits des travailleurs, suppression des subventions aux services des VAS, persécution de la culture et de tous ceux qui pensent différemment. Ils utilisent la stratégie de tout défoncer dans les temps les plus courts possibles, à travers un décret de nécessité d'urgence, DNU, et la loi Omnibus. Ils tentent de refondre la société argentine. En attaquant tous les aspects de la vie démocratique, ils veulent privatiser toutes les entreprises publiques, libérer la vente de nos ressources naturelles et favoriser la concentration du pouvoir entre les mains du pouvoir exécutif, les présidents. Les projets de loi Omnibus étaient composés de plus de 600 articles. Il a été discuté au Congrès pendant plus de 3 jours, en derrière les dos de la société argentine. Les environs du Congrès étaient pleins de forces de sécurité qui ont réprimé tous ceux qui voulaient exprimer leur opposition aux mesures du nouveau gouvernement. Le 24 janvier, une grève nationale avec des manifestations a été organisée dans tous les grands centres urbains de l'Argentine. Ces manifestations ont été cruciales pour ce qui serait plus tard la première grande défaite des gouvernements de Milei. En raison de son incapacité politique à négocier, même avec l'opposition prête à le faire, la proposition de loi a été rejetée. C'était une petite victoire, car les décrets de nécessité et d'urgence restaient en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient examinés au Congrès. Une situation qui a été repoussée pour les gouvernements jusqu'à aujourd'hui.
Le peuple argentin a une grande tradition d'organisation. Les syndicats sont des structures puissantes qui attendent à toucher une grande partie de la population, gérant et garantissant des droits fondamentaux, tels que l'accès à la santé et représentant les travailleurs dans les négociations salariales et les conditions de travail. Les étudiants sont aussi des secteurs très politisés et mobilisés. Dans notre pays, il existe des forces très importantes d'organisation, des plus petits groupes des quartiers et coopératives jusqu'aux grands mouvements sociaux. Ce sont des organisations ayant une perspective de transformation sociale et populaire, basée sur la solidarité. Elles sont généralement présentes là où l'État est absent. Dans ce contexte où l'État est en danger, les petites organisations des quartiers, les assemblées, les mouvements sociaux, les organisations étudiantes et les syndicats font face aux politiques récessives du gouvernement en répondant aux besoins les plus urgents tels que la nourriture et la santé, et en résistant aux avancées sur nos droits dans chaque espace. Une première démonstration de la force de l'organisation a été la mobilisation du 24 janvier, appelée par les principales centrales syndicales, mais soutenue par de nombreuses organisations. Le mouvement féministe jouera un rôle clé dans les années à venir. En fait, le gouvernement a déjà présenté un projet de révocation de la loi sur l'avortement. Il sera nécessaire que nous soyons dans la rue pour défendre nos droits.
En premier lieu, rendre visible la situation en Argentine est crucial. Les temps de résistance se profilent non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Actuellement, la montée de la droite est une réalité dans de nombreux pays et il faut joindre nos forces pour y faire face. Le néocolonialisme dont l'Europe et les États-Unis ont une grande responsabilité est encore en vigueur et détermine la vie des peuples du Sud global en les soumettant à des politiques d'ajustement et d'appauvrissement. Il est essentiel d'unir nos voix et de créer des espaces de rencontres et de résistance. D'autre part, suite à la grève générale des assemblées d'Argentine et Argentins ont émergé dans le monde entier, notamment dans les principales villes européennes, Paris, Toulouse, Barcelone, Madrid, Berlin. À Lyon, il n'y a pas encore un espace constitué comme tel, mais il y a des collectifs des latino-américains comme nous-mêmes, complot féministe. Nous souhaitons que les actions de mobilisation et de pression continuent pour que le gouvernement actuel comprenne qu'on ne va pas céder les droits conquis.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up.
De esa petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
Con quilates, nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todos los políticos estén tensos. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Me
Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras.
Et ben voilà, pris de court presque, on passe directement au national. J'ai dit presque, mais c'était complètement le mot que je voulais dire.
Et c'était complètement le mot. Est-ce que tu veux un jingle?
Ah bah,
te remettre de tes émotions.
J'aimerais.
Et ben c'est parti alors.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Paf, et c'est reparti avec le jingle. Eh ben oui, on avait envie de vous parler ce soir des keufs qui sont en complète roue libre dans certains quartiers, en particulier dans Paris 12e, parce qu'on leur a donné le droit, vous savez, avant les keufs, ils avaient le droit de mettre des amendes un peu comme ça, mais pas tant que ça, c'était quasiment que pour les infractions routières, où voilà, tu grilles le feu, tu te fais gauler, tu te prends ton amende de je sais pas combien d'euros, et puis c'est marre. Mais évidemment, les gouvernements de droite successifs se sont dit, mais quand même, ça serait sympa si les keufs, ils pouvaient distribuer des amendes un peu comme ça, pour tout et n'importe quoi, parce que la justice, c'est chiant, alors ça arrive pas trop, mais de temps en temps, elle donne tort aux keufs, etc. Du coup, c'est problématique. Donc il y a eu un élargissement très très large des droits, et donc c'est ce qu'on appelle les amendes forfaitaires. Donc quand on dit forfaitaire, ça veut dire arbitraire de la part des keufs. C'est ça qu'il faut exactement comprendre quand on parle d'amendes forfaitaires. Seulement voilà, bah les keufs, comme ils sont pas toujours hyper malins, ils ont mis un peu de temps à saisir de l'outil, et au début ça prenait pas forcément trop, et puis petit à petit dans certains quartiers ils se sont aperçus qu'ils avaient le droit de faire ça. Alors pour vous donner une idée, les amendes forfaitaires, comme on dit, ça peut être pour attendez, j'essaie de retrouver, mince, je l'ai écrit. Bon, en gros, il y a le fait de laisser, voilà, t'oublies ta canette sur le banc, boum, tu peux te prendre une amende. Il y a évidemment le fait de faire un petit peu trop de bruit dehors, boum, on peut se prendre une amende. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle de déversement de liquide sur la voie publique, en gros. Un glavio par terre et boum, une amende.
Ah ouais, c'est quand tu craches, c'est un liquide.
Quand tu craches, bah, en fait, c'est un détournement. J'essaie de retrouver, mais bon, peu importe, il y a une formulation très juridique.
De fumer des joints en plus maintenant, ce truc un peu.
Il y a aussi évidemment les amendes forfaitaires pour les consommateurs, parce que le but, c'est évidemment que les gens soient en bonne santé. Je crois que c'est ça le but de la politique. Ah non, pas du tout. Voilà. Du coup, voilà, ça donne quand même. On en rigole un peu parce que c'est franchement débile. Mais pour vous donner une idée, il y en a plus de 300 000, enfin il y en a quasiment 300 000 qui ont été délivrés en 2022. Et ça, c'est un tiers de plus que l'année précédente, ce qui montre quand même une augmentation significative d'utilisation de cet outil par les keufs. Devinez quoi ? Évidemment, c'est toujours sur des jeunes, plutôt des mecs entre 14 et 25 ans à peu près que ça tombe, et bizarrement racisés ou résidant dans des quartiers de politique de la ville, etc. Bref, dans les quartiers pauvres. Voilà, ça c'est l'immense majorité des gens qui sont, et entre autres par exemple il y a plein d'amendes qui sont foutues pour scooter, faire du scooter sans casque et tout le tremblement. Bizarrement, c'est toujours dans ces quartiers là qu'elles sont mises, alors qu'a priori un scooter c'est quand même plutôt un truc de déplacement, quoi. Autant zoner en bas de chez soi, c'est souvent en bas de chez soi, autant faire du scooter on se déplace, mais les amendes elles arrivent toujours quand les gens sont dans leur quartier. Voilà, mais voilà, ça donne des situations vraiment dramatiques. Par exemple, Donc Jordan, le nom a été changé par Basta qui a écrit cet article. 19 ans, et ben il se trouve avec 30 000 balles de dette. Et en fait, lui, il a compté 30 000 balles de dette, mais il explique que de toute façon, elle continue d'arriver et qu'il a complètement arrêté d'ouvrir les enveloppes parce que c'est des gens qui pouvaient recevoir jusqu'à 3 ou 4 amendes par jour de la part des DEC. Et du coup, avec ce truc qui, clairement, est une politique qui permet de leur signifier qu'ils ne sont pas les bienvenus sur l'espace public. Jordan, il nous raconte, quand ils mettent une amende, je sais même pas pourquoi, c'est la surprise, ils disent. Souvent, ça commence par un contrôle de police, les forces de l'ordre prennent son identité et lui donnent une amende. Le jeune se souvient qu'une fois, alors qu'il était assis dehors, les keufs sont venus et leur ont demandé de nettoyer les alentours, parce que c'est le travail des gens qui sont dehors avec leurs potes. Comme ça, ils mettraient pas d'amende. Donc les gones, ils se sont dit, bah, éviter une amende, en vrai, ça vaut le coup. Ils ont nettoyé les alentours. Et à la fin, ils sont quand même pris une amende, parce que finalement, ils peuvent les mettre pour tout et n'importe quoi.
Donc en gros, c'est tu prends un TIG extra-légal et une amende.
Ouais, exactement. Exactement. Et en plus, bah voilà, il explique que contester les amendes, alors que de temps en temps, on peut avoir des amendes, par exemple, pour le code de la route, on sait à quel point c'est long et laborieux de justifier. Et en plus, comme là, il n'y a aucun moyen finalement de prouver qu'on n'était pas en train de faire et qu'évidemment, c'est la parole de la police qui prime, ça veut dire que les keufs peuvent faire absolument n'importe quoi. Et un autre jeune qui raconte, en gros, il reçoit une amende et il va voir le flic qui lui a mise en lui disant « Mais mec, je n'étais pas là ce jour-là », parce qu'ils se connaissent, hein, les keufs, ils les harcèlent tous les jours, du coup, tout le monde se connaît. Et le gars a dit « Ouais, non, mais c'est pas grave, ça fera pour la prochaine fois, comme ça, t'as un joker ». Donc on est vraiment sur une pratique hyper arbitraire et qui fout des gens dans une merde de ouf, parce qu'en vrai, quand t'as pas 18 piges, ou même quand t'en as 19 ou 20, enfin pour n'importe qui, se retrouver avec 30 000 balles d'amende, mais d'autant plus quand t'as pas commencé dans la vie. Et bah du coup, ça fait plein de gens qui du coup n'accèdent pas à leurs droits, par ailleurs, en se disant, bah de toute façon, je vais pas demander mes droits, puisqu'il y en a une partie qui va être ponctionnée par l'État. Et puis, pourquoi bosser autrement qu'au black, puisque une fois encore, si jamais tu venais à passer toutes les étapes de la discrimination et avoir un job derrière, finalement, l'État, il va te ponctionner ton salaire, toutes les amendes qu'il t'aura mis précédemment. Donc ça fait en fait des gens qui se retrouvent avec des dettes monumentales pour des raisons complètement arbitraires qui sont surtout incontestables. Et c'était bien ça le but de ces amendes-là, c'est quand le flic dit que t'as craché par terre, bah va le prouver après, c'est que c'était pas vrai, c'est complètement insalubre. Voilà, de liquide insalubre, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent les crachats. Enfin, ça peut être d'autres choses, mais
c'est
du
vrai
coup,
que c'est pas très salubre en vrai, fait ça,
c'est,
arrêter de cracher par
c'est
terre,
un détournement du déversement de liquide insalubre. Et à coup de 35 euros, à 35 euros, à 35 euros, ça fait des gens qui se retrouvent dans une merde noire et évidemment avec une toute puissance de la police qui peut les cartonner et évidemment en mettre 3, en mettre 4 par jour sans problème et de recommencer le lendemain. Et c'est surtout ça qui est inquiétant.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police qui tire, la police assassine. Qu'est-ce que des drogues? Où sont les flics? La police mutile.
Violence policière.
Et on continue toujours avec des gens qui ont eu des soucis avec la police, mais au-delà des amendes, c'est souvent leur corps qui a été violenté, voire des personnes qui ont été tuées. On voulait donner quelques petites nouvelles de l'impunité policière qui est toujours en cours. Pour ça, on va commencer par vous parler de Nora. Donc là, les faits ont lieu le 24 juin 2017. Pour faire simple, il y avait une teuf... Ah, j'ai mangé le lieu attrape, voilà, pardon. Il y avait une teuf attrape, ça s'est un peu enjaillé. Bon, il y a une quinzaine de jeunes qui ont caillassé une voiture de keuf. Les keufs étaient fâchés, ils ont évidemment riposté avec leur LBD et les grenades lacrymo. Seulement, Nora, en fait, elle n'était pas du tout en train de faire la teuf. Ce soir-là, elle était avec son mari et ses deux gosses et elle était allée voir ses grands-parents dans le coin. Et malheureusement, comme après les flics qui couraient dans tout le quartier pour attraper qui pouvait, ils ont fini par débouler et croiser son chemin et elle a été victime du coup d'un tir de LBD qui l'a heurté au biceps gauche et qui lui a donné, enfin qui lui a valu, pardon, plutôt 21 jours d'incapacité de travail, ce qui est quand même pas rien en termes de dommages.
Franchement beaucoup.
Donc pour cette agression et ce tir de LBD non mérité, comme tous par ailleurs, mais particulièrement là où elle était simplement en train de rentrer chez elle, il a fallu quand même 6 ans d'enquête, et malheureusement c'est un non-lieu qui a été prononcé à l'égard du policier de 35 ans qui avait été mis en examen pour violence volontaire avec arme avec par personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, des histoires plus moches, mais dont il est d'autant plus important de parler. On peut vous parler de Bilal. Bilal, il avait 34 ans et il a été tué par la police. C'était le 23 juin 2021. C'était des caves qui venaient pour une expulsion locative. Donc ils sont rentrés chez lui, on vous passera leur histoire à eux, et ils ont fini par lui tirer dessus. Bilal, il est mort, il s'est pris une balle dans le corps et un coup de taser. Il y a une reconstitution qui a été faite, et sur cette base-là, il y a Index, peut-être vous connaissez, c'est une ONG qui enquête sur les faits de violence policière et surtout sur la reconstitution, et qui permet de mieux analyser ce qui s'est passé en récupérant évidemment les données de la reconstitution, mais aussi les déclarations des keufs. En gros, les flics, ils sont rentrés, ils expliquent qu'ils étaient déjà hyper dans l'angoisse parce qu'il faisait noir, que ça avait l'air hyper, hyper, hyper dangereux. Donc, ils avaient déjà, il y en avait déjà la moitié qui avait une arme à la main. Et que Bilal, il était allongé sur son canapé et qu'il se serait levé, aurait attrapé un couteau. Alors, quand on écoute leur première déclaration, on entend parler de couteau de 40 cm. Donc, effectivement, ça fait une belle lame. En vrai, dans l'appartement, il a été retrouvé un aiguiseur à couteau et un petit couteau de cuisine. Et qu'il se serait levé, qu'il allait attaquer une des policières qui était présente. Et que dans ce mouvement d'immense danger pour la police, il lui aurait tiré dessus et du coup il serait mort. Bon, la réalité c'est qu'en fait Bilal, il a été effectivement donc touché par une balle, mais que la trajectoire de la balle est assez claire, elle est descendante, ce qui veut dire que le flic était au-dessus de Bilal. Et on va aussi noter que Bilal est significativement plus grand que le dit policier. En gros, il était pas du tout debout en train d'essayer d'agresser quelqu'un avec une arme, il était plutôt en position assise ou semi-assise. Par ailleurs, alors on va pas tout vous détailler, mais le coup de taser, la façon dont il a touché Bilal est complètement incompatible avec l'histoire que racontent les keufs, etc., etc. On vous invite à aller sur le site de index.ngo pour avoir tous les détails de cette sale histoire et des mensonges des fonctionnaires de police. Pour conclure sur l'impunité policière, et peut-être le plus moche de cette petite revue,
c'est florilège.
Ouais, florilège de saloperie. C'est Wissam. Il avait été interpellé dans la nuit du 1er janvier 2012, et il est mort quelques jours plus tard avec le corps complètement tuméfié. Donc 2012, c'était il y a 12 ans maintenant. Donc il est mort 9 jours après son interpellation. Donc il y a une reconstitution qui a été faite pour la justice, qui de toute évidence est bien plus pressée d'envoyer en comparution immédiate des gens qui choivent des canettes de Red Bull ou qui les trouvent dans la rue que pour juger les keufs. Il y a une reconstitution qui a été faite, mais alors c'était à Cournon d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, mais c'est hyper malin, ils ont reconstitué quelques minutes de ce qui se serait passé dans la voiture pour voir si éventuellement une technique très spécifique aurait été utilisée dans un moment très précis dans cette voiture-là. En gros, on appelle ça une reconstitution où on sait que rien ne va pouvoir en sortir pour pouvoir se dédouaner assez largement de tout ça. On peut dire par ailleurs qu'ils ont quand même réussi à faire la reconstitution d'un événement dans une voiture qui n'est pas la même. Enfin, pas le même modèle que celle dans laquelle a été embarqué Wissam. Voilà, donc ça fait toujours 12 ans en fait qu'on n'en sait rien. Évidemment, il a été mentionné qu'il était certainement mort d'une overdose, et puis peut-être d'un taux d'alcoolémie très important, ou peut-être d'un arrêt respiratoire ou d'un arrêt cardiaque à cause du stress, etc. Et que toutes ces hypothèses ont été écartées. Donc peut-être un jour il faudra prendre le temps de faire des reconstitutions sérieuses, et surtout finalement de condamner les flics quand ils tuent des personnes.
Et oui, alors pas facile de rebondir là-dessus. On va voir que c'est pas sûr que tout ça s'améliore, vu que la police conserve un peu d'argent. Effectivement, alors vous avez sans doute pas raté l'info, ou peut-être l'avez-vous raté, c'est pas très grave. Mais le gouvernement vient de décréter une cure d'austérité de 10 milliards d'euros. Les ministères de l'écologie, de l'éducation et de la recherche vont payer le plus lourd de ce tribut, avec à la clé probablement des milliers d'emplois publics en moins. En revanche, pas touche aux cadeaux faits aux entreprises, pas touche à la police et touche pas trop à l'armée. Ce jeudi matin, donc hier matin, le décret signé par le Premier ministre qui détaille ministère par ministère les 10 milliards d'euros de coupes budgétaires a été publié au Journal officiel. Hein, vous pouvez retrouver ça sur le site du JO et vous aurez le détail précis ligne par ligne. Et c'est super intéressant. Donc ça arrive quand même assez vite, hein. Ça arrive 4 jours après l'annonce d'une cure d'austérité qui a été faite en fait par Bruno Le Maire au journal de TF1 dimanche dernier. Et c'est peut-être pas la dernière de l'année puisque l'exécutif précise ne pas exclure en plus du décret qui évite l'utilisation d'un énième 49.3, ils n'en avaient pas utilisé assez, de procéder à un projet de loi de finances rectificatif autour de l'été, donc ça pourrait encore s'empirer. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a un tel tour de vis précipité? Le ministre de l'économie a mis en avant une baisse des prévisions de croissance pour 2024 de 1,4% à 1%, tout en maintenant son objectif d'un déficit budgétaire de 4,4% pour cette année. Et pour y parvenir, le gouvernement s'entête dans un dogme de baisse des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des recettes de l'État ou de l'impôt, avec des mesures particulièrement favorables aux entreprises et aux détenteurs du patrimoine, dont notamment la fin des impôts de production pour que les entreprises payent encore moins d'impôts. Bref, derrière le chiffre un peu abstrait de 10 milliards d'euros, ça fait beaucoup d'argent, vous manipulez peut-être pas ça tous les jours, nous non plus, se cachent des réalités en fait assez concrètes. Le décret publié ce jeudi précise donc, comme je le disais, poste par poste, les économies qui vont être faites. Les politiques publiques en matière d'écologie, de développement et de mobilité durable, alors bon, c'est le terme pour écologie un peu nul, mais cela dit quand même, dans
c'est
un
toujours
sens
moins nul que pas.
Toujours moins nul que pas, sont les premières contributrices puisqu'elles sont rabotées de plus de 2 milliards d'euros, donc 20% de l'effort général est réalisé sur l'écologie qui devait être, j'imagine, l'une des grandes causes du quinquennat ou qui devrait à minima être un enjeu un petit peu aujourd'hui. Le travail et l'emploi, eux, sont allégés de plus d'un milliard. La recherche et l'enseignement supérieur, qui est un assez petit ministère, de 904 millions d'euros. L'aide au développement, ça c'est pour éventuellement continuer le colonialisme, de 742 millions d'euros. La cohésion des territoires de 736 millions d'euros, c'est là où on va en reparler un petit peu après, je détaille tout ça, c'est incroyable, on adore les chiffres.
Mais qu'est-ce que la cohésion des territoires?
La cohésion des territoires, c'est le truc pour que les territoires pauvres soient un peu moins pauvres.
Ah,
Ils seront un peu plus pauvres, évidemment. Et l'éducation, évidemment, qui est l'alma mater, la mère de toutes les batailles, tout ça, tout ce qui est savoir et compagnie, et bah, ça a 700 millions d'euros en moins, chic. De façon transversale à l'ensemble des ministères, les dépenses du titre 2, alors parce qu'il y a le titre 1 et le titre 2, à savoir les dépenses en personnel de l'État, sont diminuées de plus de 780 millions. Donc ça, c'est des postes en moins cash. Et sur celle-ci, c'est l'éducation nationale, je l'ai dit avant, la mère de toutes les batailles, qui paye le plus lourd tribut, 306 millions, soit 40% des économies globales en termes de personnel vont être faites dans l'éducation. Donc conséquence, hein, c'est des milliers de postes d'enseignants en moins, mais aussi de tous les autres personnels de l'éducation.
Parce que je crois qu'ils ont dit finalement, peut-être ce ne sera pas des enseignants, mais en fait c'est peut-être des CP ou d'autres...
Ouais, des AED, des AESH, voilà, pour accompagner les écoliers, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Et donc on a un petit détail qui a été fait par, les calculs ont été faits par François Jarreau, le directeur de publication du site Café Pédagogique, hein, c'est un site de prof. Les économies inscrites dans le décret publié ce matin équivalent à 2620 emplois d'enseignants non financés dans les écoles, donc dans le primaire, 1740 dans les collèges et par ailleurs 4600 postes d'AED ou d'AESH, soit presque 9000 emplois auxquels il faut ajouter 1800 postes dans le privé sous contrat, c'est-à-dire le faux privé, le truc qui est quand même payé par le public, pour un total approchant de 11 000 postes dans l'éducation, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup, dans une mesure où, en plus, l'éducation n'est pas en super état de départ. Mais les coupes dans l'emploi ne se limitent pas à l'éducation, ça aurait été trop dommage. Le ministère de l'Agriculture connaîtra aussi sa saignée avec 60 millions d'économies de personnel. D'autres emplois sont aussi menacés par les coupes budgétaires dans la recherche. Et ici, ce n'est pas directement des personnes qui sont employées par l'État, mais plusieurs milliers de postes dans des organismes de recherche financés par l'État, comme notamment le CNRS ou l'INRA, qui a à peu près le même statut que le CNRS. Hein, c'est un centre public de recherche. Donc bref, la recherche, on s'en fout aussi. C'est con pour une start-up nation. Donc ça doit être ça aussi. L'écologie à la française qu'on nous vante depuis des années, bah, on va voir ce que ça on va voir, puisque après la mise sur pause du plan Ecophyto 2030, qui visait à diminuer 50% de l'usage des pesticides en 6 ans, puis l'abandon annoncé par Gabriel Attal hier de l'indicateur permettant de mesurer leur diminution. On va revenir sur ça dans un sujet juste après. Ça tease au calme.
Oh là là.
C'est autour de la rénovation thermique de faire les frais des choix gouvernementaux. Ainsi, le programme écologie, développement et mobilité durable est amputé, comme je disais précédemment, de 2 milliards d'euros, dont la moitié proviendra en fait de, du découpage de MaPrimeRénov. Donc c'est une prime qui concernait les propriétaires qui souhaitaient réaliser des travaux de rénovation énergétique au sein de leur logement. Alors il y a plein d'inégalités qui se cachent derrière, mais...
Oui, et c'est cohérent avec le fait que les diagnostics énergétiques trouvaient que c'était pas si bien fait et qu'ils en ont profité pour changer le comment et jauger le diagnostic pour faire rentrer dedans, pour pouvoir louer d'autant plus de logements par ailleurs.
Tu es taquin, les termes officiels sont quelque chose du genre « nous avons sorti beaucoup de logements de la catégorie de passoire thermique ».
Voilà.
Parce qu'il y a quand même un truc, on y reviendra aussi après, mais un truc qu'aime bien le gouvernement actuel, mais c'est un peu valable partout avec les nouveaux libéraux, c'est tu casses le thermomètre et bim, c'est sympa.
Ça marche mieux.
Et donc sur le logement, voilà, pff, aparté, et on parle...
Les thermomètres...
Sur le logement, le thermomètre pourrait avoir une indication si tu as froid chez toi. Mais donc, on fait rentrer un paquet de passerelles thermiques, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi, ils ont abaissé de 40 cm la hauteur sous plafond sur laquelle il est droit de louer, et notamment, ils ont aussi modifié des trucs, il est désormais possible de louer plus facilement des logements sans fenêtre. Donc, bref, c'est génial. On est sur en vrai, on est probablement sur, en termes de logement, sur un retour en arrière de 40 ou 50 balais, hein, quand même, pour se le dire. Mais bref, je reviens.
Plus de prime rénov.
Plus de prime rénov pour les propriétaires. Et ensuite, près d'un quart des économies, sera réalisé sur le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Donc ça, c'était quand tu fais descendre des thunes, c'est toujours un terme un peu compliqué, mais c'est quand tu fais descendre des thunes pour qu'il y ait des actions un petit peu moins destructrices de l'environnement dans les régions. 350 millions en moins, l'écologie, tchac. Autre ambition revue à la baisse, la cohésion des territoires, on va pouvoir détailler ce que c'est. Elle va être amputée de 358 millions d'euros sur son poste dédié à l'urbanisme, les territoires et l'amélioration de l'habitat. Et là, on voit la logique puisqu'on va reparler d'aide au logement. De même, les aides à l'accès au logement vont perdre 300 millions d'euros malgré une crise du logement criante, et ce, après l'annonce controversée, elle aussi, d'une remise en question de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, plus connue sur la loi SRU. C'est une loi de 2010 qui imposait notamment le quota de 20% de logement social dans les villes, et donc qui a été tout simplement foutu en l'air il y a quelques jours ou semaines par Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Bref, mais bon, on fait d'autres trucs que payer des loyers, puisque si on travaille pour payer des loyers, le champ du travail et de l'emploi n'est pas épargné, avec plus d'un milliard de couples et demandeurs et demandeuses d'emploi qui, bon, en prennent déjà plein la gueule depuis quelques années, seront probablement encore concernés par la suppression de 227 millions de dépenses pour l'accès et le retour à l'emploi, de même que les salariés souhaitant se former ou se reconvertir, puisque 863 millions... quand même, vont s'envoler pour l'accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi. C'est pas mal. Donc on va vraiment rogner très très fort sur ces trucs de formation. Et donc déjà, le gouvernement avait annoncé que dès cette année, les salariés devraient participer au financement de leur formation dans le cadre du CPF, hein, le congé le professionnel de formation, pour 10% de son coût. Alors ça, c'est magique aussi, parce que c'est un joli petit scandale, en fait, parce que ça veut dire qu'on vous paye deux fois.
T'as ton argent, tu cotises pour avoir de l'argent, et après tu payes pour pouvoir utiliser ton argent.
Tu payes, par les cotisations, tu payes 100% de ta formation, et ensuite tu repayes 10% pour accéder à ta formation. Donc déjà, ça c'est complètement dégueulasse, mais en plus, il y a un autre truc qui va avec, c'est qu'évidemment, les formations les plus qualifiantes, c'est-à-dire les plus longues et les plus chères, celles dont les personnes, probablement notamment les plus pauvres, n'ont pas trop, ou peuvent avoir besoin, eh ben, elles vont être très difficilement accessibles aux personnes les plus pauvres, parce que c'est plus difficile de payer ces 10%. Plus la somme monte, plus c'est difficile de payer 10%, moins vous êtes payé, plus c'est difficile de payer 10%. Bref, la grosse carotte. Il n'est pas possible pour l'heure de détailler ici l'ensemble des conséquences. Hein. On va pas vont avoir ces coupes budgétaires. Hein. Ça risque d'être assez désagréable. Et il est certain qu'elles vont réserver quand même un lot de surprises assez désagréables pour les pauvres, les salariés pauvres, les chômeurs, etc. Et parmi elles, il y aura aussi, donc, je le disais tout à l'heure, l'aide au développement pour les pays les plus pauvres, déjà peu dotée, qui va être réduite de 740 millions d'euros. Nous sommes assaillis par le bruit des pauvres qui se révoltent dans le studio de Radio Canu. Donc, voilà. Un seul exemple peut illustrer cette dissymétrie des mesures. Hein. C'est notamment ce truc du CPF. puisque en matière de formation, les salariés seront donc mis à contribution et ça fera économiser a priori 200 millions d'euros d'un dispositif total d'un montant de 2 milliards, donc quand même 10% de coupe à cet endroit-là. Et à l'inverse, les aides aux entreprises pour l'apprentissage, dont se gavent méchamment certains groupes, hein, c'est-à-dire l'apprentissage c'est devenu vraiment un business de dingo quand même.
Du salariat pas cher, quoi.
C'est du salariat pas cher, un truc qu'on aime bien ici, seront proportionnellement moins ponctionnés, puisque 200 millions également, mais sur un montant global de 20 milliards. Donc ça fait plutôt 1% au lieu de 10%. Donc vraiment, on voit que les entreprises, elles payent un peu moins cher. De même, hein, la baisse, puis la fin des impôts de production n'est pas remise en cause à l'occasion de cette cure d'austérité. Alors que ça coûte quand même 7 milliards d'euros par an à l'État. Et plus globalement, c'est l'ensemble des politiques dispendieuses hein, à l'égard des entreprises qui perdurent, puisque les aides directes et indirectes aux entreprises, dont vous en avez déjà parlé assez souvent, représentent quand même 200 milliards d'aides annuelles. Enfin, on vous le disait au début, la défense est très marginalement touchée, parce que l'armée, c'est chouette. Et qui n'est pas touchée du tout ? Eh bien, la police. Évidemment, la police.
J'ai des perdus.
Voilà, c'est super. Que des bonnes nouvelles. Alors, que va-t-il se passer dans les services publics et parapublics alors ?
Eh bien, il va continuer de se passer de la merde. Et là, on va vous parler d'un truc. Alors, vous avez suivi, c'est un peu sûr, cette histoire de loi immigration, un texte d'extrême droite qui a été un peu retoqué, qui reste un texte d'extrême droite, mais un tout petit peu moins extrêmement à droite. Bref, on va pas vous refaire le détail. Par contre, on va quand même mentionner une volonté qui avait été portée par Renaissance, qui était de refuser l'accès à l'hébergement. On rappelle l'hébergement, le droit au logement, un droit inaliénable pour toute personne sur le territoire. On insiste un peu sur le mot personne. Et qui voulait finalement refuser le droit au logement et à l'hébergement aux personnes qui n'auraient pas de papier. Et ben en fait, ça c'est des pratiques qui sont déjà plus ou moins en cours. Entre autres dans le Pas-de-Calais, où du coup c'est le 115 qui gère... qui est géré par le foyer international de l'accueil et de la culture et de Montreuil-sur-Mer, et ça vaut le nom, vaut quand même le détour, qui lui applique d'ores et déjà des politiques racistes. Donc c'est des gens qui sont à Utopia 56, pardon, qui les ont appelés un jour, qui avait, malheureusement il y avait 31 personnes qui étaient à la rue, dont il y avait une gamine de 8 ans dedans, et qui a appelé le 115 en demandant s'il y avait une possibilité d'hébergement. Alors, ce à quoi la personne a répondu non, mais ça, pour quiconque a déjà appelé le 115 et effectivement demandé une possibilité d'hébergement, on sait que la réponse est quasiment tout le temps non. Mais la personne a surtout dit notre association ne prend pas en charge les personnes migrantes, d'accord, et vous savez pourquoi demander le bénévole, c'est une décision associative, voilà, point. Lui a répondu le 115. Seulement, c'est pas la première fois qu'il y a des embrouilles comme ça et qu'il y a des personnes qui répondent au 115 du coup là-bas et qui expliquent assez tranquillement qu'il n'y a rien pour les personnes migrantes et qu'il y avait en gros des directives de la PREF pour que les personnes soient orientées vers Calais où elles trouveraient entre guillemets d'autres modalités d'hébergement pour les exilés. Alors on va rappeler que la rue c'est toujours pas une modalité d'hébergement, d'autant plus à Calais quand on se fait harceler par les keufs et qu'il n'y a pas le droit de distribuer de la nourriture et de l'eau. On répond à la demande des demandes classiques, mais pour les personnes migrantes c'est à Calais que ça se passe. Voilà, donc on est sur une pratique déjà profondément illégale et discriminatoire. On rappellera que quand on dit hébergement d'urgence, on veut dire hébergement pour sans-papiers et que du coup, c'est ceux qui sont les plus loin. Qu'il y a déjà des critères de vulnérabilité qui sont pris, qui permettent de finalement refuser un peu des hébergements, mais quand même de temps en temps, comme si on dit un enfant de 1 mois à la rue, même si c'est en train de devenir possible, ça fait toujours plus chier que si on dit n'importe qui à la rue, bah du coup il y a encore ça, mais de là apparemment au 115 dans le Pas-de-Calais, c'est tout à fait possible de dire vous êtes migrant, vous n'aurez pas d'hébergement.
Alors je rouvre mon micro et je vais rajouter un truc parce que quand même c'est assez incroyable aussi ce qui se passe à Calais, c'est que là il y a eu une annonce à Calais, il y a les transports en commun gratuits et ils annoncent que pour éviter que les migrants les prennent, ils vont probablement n'avoir la gratuité que pour les personnes qui vivent à l'intérieur de Calais, donc qui peuvent prouver qu'ont une preuve de résidence, etc. C'est pas encore fait mais ça ressemble rudement à de la discrimination raciale quand même.
À l'évidence ce matin Thomas est en retard, pourtant... En consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
À
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et oui, Radio Canu, faites aimer les pesticides à vos enfants. Ce jingle n'aura jamais été aussi à propos, puisqu'il est question d'ouvrir le robinet à pesticides qui pourtant déversait déjà abondamment ces molécules toxiques un peu partout pour calmer la colère des agriculteurs et agricultrices et obtenir qu'ils rentrent à la maison. Voilà ce qui s'est passé et voilà qui va sans doute réjouir les vendeurs de ces produits pesticides pour qui la France est un juteux marché. Le premier en Europe même de vente de pesticides avec un quart des ventes totales européennes pour une valeur annuelle estimée à 3 milliards d'euros, un petit marché sympa. Donc certes, le plan Ecophyto, j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure, né dans la foulée du Grenelle de l'environnement en 2009, n'a pas encore permis de vraiment diminuer leur usage, mais en fait, sa mise en pause annoncée le 1er février par le Premier ministre est quand même une belle régression. Alors le gouvernement prévoit même, on l'a dit aussi tout à l'heure, de masquer les consommations réelles de pesticides, voire leur augmentation éventuelle, en renonçant à l'outil qui permettait de mesurer leur usage. Alors là, ça s'appelait le NODU, ça veut dire nombre de doses unités. C'est un indicateur historique du plan Ecophyto. Le NODU, en fait, il rend compte de la quantité de pesticides utilisés par hectare. C'est ça, comment ça marche. Et donc, il va être probablement remplacé par le HRI1. Alors, c'est un peu moins sexy comme nom, dont on ne sait pas exactement, en fait, ce qu'il mesure, puisqu'il est censé prendre en compte la quantité et la dangerosité des pesticides. Mais des personnes nous aident comprendre ce que ça veut dire, puisque l'ONG Génération Future, hein, qui siège au comité d'orientation et de suivi du plan Ecophyto, explique que si un pesticide est très toxique est interdit et remplacé par un pesticide tout aussi nocif, on considère qu'il s'agit d'une forte réduction des pesticides, puisqu'en fait il y a le temps de renouvellement, etc., et que le truc rentre dans le système, donc HIR1 c'est pas mal. La seule certitude, c'est que cet indicateur peut donner une fausse impression de forte baisse, c'est ce que dit cette association aussi, d'utilisation des pesticides. Entre 2011 et 2021, le NODU indique ainsi une hausse d'utilisation des pesticides de 3%, alors que le HRI1 indique une baisse de 32%. Et ça, c'est trop chouette, parce que si tu changes l'indicateur et que tu fais croire que ça baisse, ben ça plaît au gouvernement. Donc, remettre en cause l'indicateur NODU, c'est remettre en cause en fait l'objectif même de la réduction des usages des pesticides en agriculture, qui était au cœur du plan. Alors, sans qu'on comprenne bien en quoi ça va sauver les agriculteurs, en vrai, on comprend pas du tout, c'est même plutôt l'inverse, bien au contraire, le gouvernement décide donc d'appuyer sur l'accélérateur qui nous mène au désastre. Les coûts collectifs astronomiques de l'usage des pesticides n'en finissent pourtant pas d'être documentés. Allez, on passe dans la phase totalement dépressive. On va commencer avec l'hécatombe des oiseaux. 25% d'entre eux ont disparu ces 40 dernières années en France. Dans les milieux agricoles, c'est carrément une proportion de 57% qui ont disparu sur la même période. Ils sont pas mal assassinés par le réchauffement climatique, les oiseaux, mais ils le sont aussi par l'usage massif de pesticides qui les affament en fait en faisant disparaître ce dont ils se nourrissent, c'est-à-dire les insectes. Insectes dont le déclin est encore plus spectaculaire, puisque 70 à 80% des insectes ont disparu sur les 40 dernières années. Continuons avec l'état de l'eau, hein, tellement contaminé avec par les pesticides que des captages doivent être fermés, notamment à cause de la présence de métabolites. Alors les métabolites, c'est des descendants de pesticides qui ont évolué en restant dans la nature, qu'on retrouve partout. À certains endroits, les autorités sanitaires sont tellement désemparées qu'elles rehaussent les seuils au-delà desquels l'eau est considérée comme impropre à la consommation. Donc toujours la même
pratique.
Ça marche pour tout. Tu changes l'indicateur, c'est très bien. Donc une eau considérée comme trop polluée hier devient ainsi potable. Vous avez compris, hein, ça marche aussi tout à l'heure pour les apparts, ça marche tout le temps. En septembre 2022, par exemple, le taux d'ésaméthachlore, donc c'est un métabolite issu d'un désherbant du maïs, acceptable, ont ainsi été multipliés par 9, passant de 0,1 à 0,9. Et puis on continue un peu comme ça. À ça, on pourrait ajouter les sols, puisque sur lesquels la recherche commence à se pencher un peu plus, découvrant une présence généralisée de pesticides qui rend une partie de ces sols impropres à la production alimentaire. Ça reste des années, des décennies dans les sols, notamment, puis en plus ça va dans les nappes de flotte, et puis on recommence.
Ça prend un arrose avec la flotte, le dissol.
Ouais, et c'est vraiment un cycle infini. Mais vous avez compris, si jamais ça vous emmerde, changez l'indicateur, etc. Alors bon, il y a aussi une manière vachement cash d'être tout à fait dégueulasse. Notamment face à Christian Jouot, c'est un agriculteur victime de pesticides, le député Renaissance de l'Hérault, un type qui s'appelle Patrick Vignal, a lancé sur le plateau de BFM TV, vous voulez quoi? Qu'on n'ait plus d'agriculture? Mais c'est précisément l'usage des pesticides qui risque de nous condamner au désert, espèce d'imbécile. Comment pourra-t-on cultiver la terre et nourrir le monde sans le concours des insectes, qui assure quand même 35% de la production mondiale via la pollinisation? Comment les agriculteurs feront-ils pour abreuver leurs bêtes et les désaltérer quand ils ne pourront plus boire d'eau parce qu'elle sera déclarée impropre? Et où cultivera-t-on les légumes quand toutes les terres seront contaminées?
Et qui cultivera les terres quand les agriculteurs seront tous calanchés à cause des pesticides?
Yes, absolument, c'est vraiment très bonne idée. Donc bref, bravo Patrick Vignal, un champion. Mettre une pause sur Ecophyto, c'est inacceptable, on ne peut pas continuer comme ça alors que tellement de gens sont malades, a donc répondu Christian Jouot, cet agriculteur malade, qui est en ce moment hospitalisé pour soigner une leucémie, probablement causée par les pesticides, alors qu'il a déjà eu un cancer de la prostate reconnu comme une maladie professionnelle. Alors longtemps réduite au silence, les victimes des pesticides sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole et à obtenir parfois la reconnaissance de leur maladie comme d'origine professionnelle. Donc en 2022, notamment, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reçu 650 demandes de reconnaissance, c'est en explosion. Mais ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, car les démarches en une reconnaissance de maladie professionnelle sont un vrai parcours du combattant, c'est ultra galère. Et puis il y a aussi encore beaucoup de honte et de déni assez fort, notamment dans les milieux ruraux. Alors personne n'a dit qu'il allait être facile de réduire et de renoncer aux outils que sont les pesticides, mais les agriculteurs ont certainement besoin d'autres aides. En France, les dépenses réelles associées aux pesticides sont deux fois plus élevées que les profits du secteur agricole entier, estime une étude du Bureau d'analyse sociétale de l'intérêt collectif, ça s'appelle le BASIC, publié en 2021. Et ce calcul à minima ne prend pas en compte l'ensemble des maladies dues aux pesticides ni les mesures de plus en plus onéreuses pour traiter cette flotte dégueulasse, pour traiter les sols ou les dépolluer, ni les aides aux agriculteurs qui sont des aides qui leur sont données pour ensuite aller payer des pesticides. Mis bout à bout, ces dépenses s'élèveraient à plus de 18 milliards d'euros, d'après le BRASIC. On rappelle quand même que les dépenses de pesticides, c'est 3 milliards, donc on voit qu'il y a un petit différentiel de 15 milliards, il y a de la thune à aller grailler. Bref, du fric comme d'hab, du fric, il y en a, et qui pourrait être utilisé différemment que pour nous empoisonner.
Vers revoir un ruminant.
Et brièvement, tout meurt, les insectes meurent, les oiseaux meurent, les agriculteurs et les agricultrices meurent aussi. Et notre cher gouvernement, dans toute sa sympathie pour la FNSEA, en a profité pour dire qu'il fallait bien buter plus de loups, parce que c'est vraiment ça le fond du problème de l'agriculture, et du coup d'autoriser nettement plus facilement les tirs des loups. On rappellera, il y a 1000 loups en France. Certes, il y a des éleveurs que ça met en galère, mais c'est certainement pas en butant tout ce qui bouge qu'on va régler le problème. Les petits asticots nous remercient aussi.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et oui, un agenda qu'on va essayer de faire relativement compact ce soir. Alors, ça commençait ce soir d'ailleurs par un rendez-vous des soulèvements de la terre devant la CNR à Lyon pour contester un projet de barrage, mais on sait pas où est la CNR, donc on vous l'annonce pas, puis c'est sans doute déjà passé. Ouais, les infos arrivent en retard, ça arrive, c'est comme ça aussi. En attendant, demain, il y a plusieurs rendez-vous, et il y a notamment un rendez-vous qui correspond à un appel anarchiste à participer à une manifestation ce 24 février en soutien à l'Ukraine et surtout aux Ukrainiens, Ukrainiennes. Donc le rendez-vous à Lyon, c'est demain à Place Bellecour de 14h30 à 16h30. Juste en intro, en Ukraine comme en Palestine, il y a quand même une guerre dure, voire un empire génocidaire qui refuse de reculer devant la volonté de subjuguer totalement un peuple dominé, malgré des appels incessants à un cessez-le-feu. Alors qu'on s'approche de 2 ans du début de l'invasion totale lancée par le régime de Poutine, c'était comme déjà il y a 2 ans, il y a un appel qui est notamment relayé par le site anarchiste belarusse Pramen, qui incite les camarades à se montrer solidaires des Ukrainiens, Ukrainiennes, résistant toujours à l'invasion russe, et donc à se rendre aux manifestations de demain. Dans le, les manifestations de soutien aux populations victimes de la guerre, il y a évidemment, malheureusement, de manière assez rituelle, désormais, demain, au terreau, pardon, un rassemblement en soutien aux Gazaouis. Et donc ça, c'est très hétérogène de le dire, à partir de 15h. Discussion un petit peu plus joyeuse pour envisager d'autres futurs, et ça c'est plutôt lundi, puisqu'il y aura une causerie des clameurs sur le terme « abolir la famille », un thème inspiré de la lecture d'un ouvrage de O'Brien, dont la traduction est parue en octobre aux éditions La Tempête, qui s'appelle « Abolir la famille, capitalisme et communication du soin ». Et du coup, c'est toute une discussion pour voir si la famille, notamment mononucléaire, est vraiment nécessaire à nos vies. Peut-être pas. En tout cas, si vous voulez en débattre, c'est le 26, donc dimanche à 19h au Clameur. Pardon, c'est dimanche, c'est pas du tout dimanche, c'est toujours
c'est lundi.
C'est lundi.
C'est les causeries du lundi, je crois.
Les causeries du lundi des Clameurs. Vérifiez toutes les informations qu'on vous raconte, elles sont probablement fausses. Autre chose assez réjouissante, même sur un thème qui ne l'est pas forcément, le mardi 27 février, l'Amicale du Futur à partir de 19h. Il y a la présentation du livre Firestar de Heidi Rose. Donc, c'est un livre qui sera en partie lu par Marguerin Lelouvier, en présence notamment de l'auteur et des éditrices du groupe Dorothy. Et ce sont des discussions autour de l'inceste et des rapports de domination adulte-enfant. C'est un livre qui discute de cette question, notamment de l'inceste et de comment lui faire pièce. Voilà, ça c'est mardi 27 février. Ça, j'y suis à la bonne date, 19h à l'Amicale du Futur, quelque part, rue Sébastien Griff.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Et qu'est-ce que ça veut dire ACAB ? On a eu de nombreux appels, on a sélectionné un qui se décline en deux, et ça c'est quand même pas toujours. Alors il y a la version jeune, austérité à Calais, arrêtons ces bolos. Et sinon, il y a la version plus vieux, austérité à Calais, arrêtons Bardella, ça marche aussi.
Yes, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, l'émission traditionnelle de Rap Musette arrive sur Radio Canu, ils sont plutôt sur la version jeune du ACAB a priori, et